mes deux invités sont arrivés, il est 8h01. Bonjour Léo et Simon Varinsky.
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Le duo Varinsky, le premier Léo est chef d'orchestre et chef de chœur, et le second est le nouveau président d'Accent 4. Est-ce qu'il a été facile pour l'un et l'autre de se lever très tôt pour venir à cette émission ?
Oui, absolument. Alors, d'autant plus quand on a des enfants à la maison, voilà. Non, à la fraîche.
Avec plaisir, pour venir à Accent 4 de toute façon.
C'est toujours difficile pour un artiste quand même de se lever tôt.
C'est toujours difficile, c'est vrai. Mais des fois la fin justifie les moyens.
Absolument. Très bien. Excellente réponse, celle-là je vais la retenir. Léonard Bernstein, quel parcours, compositeur, conférencier, écrivain, chef d'orchestre, un homme aux multiples facettes, un homme qui a brûlé sa vie pour la musique. Est-ce que c'est un modèle ?
Oh oui, un modèle, c'est même une espèce de maître étalon, on pourrait dire. C'est-à-dire que Bernstein, c'est tout. C'est la musique avec un M majuscule. C'est-à-dire qu'il s'empare à la fois de la musique américaine, il invente quelque chose en tant que compositeur. C'est un grand pédagogue aussi. Il invente une nouvelle façon de présenter la musique. Et puis comme chef d'orchestre, bien entendu, c'est absolument fascinant. Et c'est aussi un défricheur de répertoire, notamment avec la musique de Mahler, qu'il a mis tellement à l'évidence, et un pianiste remarquable, on vient de l'entendre.
Vous qui êtes chef d'orchestre, Léo, on se tutoie, je tutoie Simon, on
va se
tutoyer.
C'est Noël.
Comme on le fait d'habitude. Bernstein s'identifiait à un compositeur, il s'identifiait à Mahler, il a l'impression d'être Mahler lorsqu'il dirigeait. Est-ce que c'est un sentiment qu'on peut avoir quand on est chef d'orchestre, comme vous ?
Je pense qu'il faut s'appeler Leonard Bernstein pour pouvoir dire qu'on s'identifie à quelqu'un comme Gustav Mahler. Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que comme chef d'orchestre, on a toujours un pacte moral avec le compositeur. Et donc, il peut y avoir, au bout d'un moment, une sorte de phénomène d'identification, puisqu'on rentre finalement au plus intime, quasiment, de la pensée du compositeur quand on lit sa musique. On dit souvent que la musique, des fois, va transcrire ce qu'il y a derrière les mots, au-delà des mots. Et du coup, le geste d'interprétation, c'est s'emparer de cette intimité du compositeur. Donc je comprends l'identification qui peut se produire.
Et c'était un homme qui se nourrissait d'autres cultures. Il était juif, sa condition de juif était extrêmement importante, mais c'était aussi un homme épris de littérature, capable de réciter Goethe, Proust, dans le texte d'ailleurs.
Oui, je pense que Leonard Bernstein est un chef humaniste en fait, avec un H majuscule.
Et il le disait d'ailleurs, il aimait, alors c'est pas de la démagogie, certains pourraient prendre cela pour de la démagogie, il disait mais moi j'aime les hommes.
J'aime les
avec
gens.
Un grand H.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Léo, il y a 2 ans, tu étais à ce micro avec Hugo et déjà Simon. Depuis 2 ans, on a l'impression que ta carrière commence un petit peu à exploser.
Ah ben, c'est difficile de le dire de l'intérieur, mais effectivement, mon activité se développe. Elle se développe surtout là où je suis heureux, exactement là où je voulais qu'elle soit. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement cette double casquette dont vous évoquiez au début le cas. C'est-à-dire que je suis chef d'orchestre et chef de chœur. Et effectivement, je développe à la fois mon activité dans ces deux domaines. Le chœur avec les Métaboles, qui continuent de faire beaucoup de concerts, qui chanteront beaucoup d'ailleurs en Alsace cette année 2018. À venir, et aussi l'orchestre qui se développe bien, puisque je travaille de plus en plus avec des orchestres en France ou par le monde. Et la troisième chose, c'est la part de la création, la musique contemporaine, qui continue de m'intéresser beaucoup et qui va donner lieu, en tout cas pour cette année encore, à de nouveaux ouvrages assez exceptionnels.
On va en parler. Simon, de quelle manière tu regardes le parcours de Léo ?
Avec fierté, bien évidemment. Je suis assidûment, je partage aussi sur les réseaux sociaux dès qu'un article sort, dès qu'un nouvel enregistrement sort. Voilà, j'essaye de soutenir au mieux moi cette carrière qui se développe, et je suis pas le seul dans la famille à être fier de ce parcours là. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait rêvé faire nous-mêmes, et on a quelqu'un dans la famille qui arrive à accomplir ce rêve, parce que on est dans une famille de musiciens. Léo est le premier à en avoir fait son métier et sa carrière. Et évidemment, ça nous permet nous aussi de rentrer dans ce milieu, de rencontrer des gens, les gens qui entourent Léo, et on profite nous aussi de ce métier exceptionnel que fait Léo.
Léo est l'aîné de la fratrie.
Oui, oui. Tout à fait. Oui.
Ensuite Simon et ensuite Hugo.
Et ensuite Hugo.
Hugo qui ne pouvait pas être
qui pouvait pas, voilà, qui
n'a
pas
pu réussir.
Voilà, tout à fait.
Alors Léo, tu l'as dit, tu t'investis beaucoup dans la musique et dans la création contemporaine. J'aimerais un peu que tu nous parles de la manière dont tu travailles une partition. Jean-Jacques Werner, qui est malheureusement décédé récemment, et à qui on rendra hommage le 12 janvier, disait qu'il humait le livret d'un opéra avant d'en écrire la musique. Est-ce que le chef d'orchestre, Léo, hume une partition avant de l'étudier?
Oui, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, oui, je prends en tout cas la température, pas forcément de la partition, avant de me lancer dans la partition d'un compositeur que je ne connais pas, j'aime écouter sa musique. C'est-à-dire qu'il faut que j'écoute un petit peu son univers. C'est ça le défi, en fait. C'est de comprendre quels sont les enjeux que se pose le compositeur en général, esthétiquement, dans sa musique. Et ensuite, seulement, j'hume le parfum de la partition, je rentre dedans. La lecture d'une partition, l'apprentissage d'une partition, c'est plusieurs étapes. C'est long. D'abord, j'aime bien survoler, essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et au fur et à mesure, on prend la loupe, on rentre au microscope et on essaye de voir les mécanismes internes et on rentre dans la cuisine interne du compositeur. Et la chose très intéressante dans la création, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est très souvent que avant d'attaquer la partition, j'ai généralement le compositeur aussi au téléphone, où je le vois, je discute avec lui, parce que lui-même, de temps en temps, si c'est un jeune compositeur, peut avoir des clés à me livrer de son écriture, de sa musique, de l'univers qui a présidé à la création. Et donc j'ai besoin de tout cela. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime la création. Parce que les compositeurs morts, malheureusement, ne sont plus très loquaces.
On est d'accord, Simon.
On est bien d'accord.
Alors que les compositeurs vivants, finalement, la plupart le sont assez.
Alors quand on s'intéresse à la musique d'un jeune compositeur, est-ce qu'on s'intéresse aussi à la personnalité et à ce qui l'intéresse en dehors de la musique? Est-ce que son intérêt qu'il peut porter à la littérature, aux arts plastiques, peut conditionner la manière d'interpréter?
Oui, je crois même que c'est fondamental, en fait, de s'intéresser aussi à l'homme, autant qu'à l'artiste. L'artiste est... Le musicien est quelqu'un qui est façonné de toute son histoire, de toute sa culture. Et je ne peux pas imaginer qu'un compositeur écrive de nulle part. Il est toujours pris dans le flot de l'univers dans lequel il évolue, son univers esthétique, mais aussi même son univers géographique, politique. Lorsque vous faites la musique d'un Sébastien Rivas et vous connaissez son histoire, par exemple, ou Francesco Filidei, un Italien, vous êtes de toute façon forcé de vous intéresser à tout l'univers esthétique et sociologique, historique qui l'a façonné.
Quand tu reçois la partition, est-ce que tu la travailles au piano ou au contraire, tu te fais une image sonore en lisant la partition?
Alors, je suis très mauvais pianiste, j'ai deux mains gauches, donc le piano n'est pas une aide extraordinaire pour moi. J'ai par contre la chance d'avoir développé une très bonne oreille interne, comme on dit, donc je suis généralement le plus souvent dans le silence de mon bureau pour travailler une nouvelle partition. J'utilise rarement le piano.
Et quand on sait que les partitions de musique contemporaine généralement sont très longues, en hauteur.
Oui. Oui, alors ça prend du temps, forcément.
Simon.
C'est vrai qu'on en parlait un peu hier, hors micro, avec Olivier. En fait, c'est quelque chose qu'il faut voir. Léo travailler sur une partition de musique contemporaine qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Avec quelque chose qui est indéchiffrable. Alors j'ai quand même quelques notions de musique et de lecture de musique. J'avoue que j'atteins très très vite mes limites en voyant ça. Et donc à quoi ça ressemble, Léo, qui travaille sur une partition contemporaine? Alors il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de codes un peu cabalistiques, de signes cabalistiques pour essayer de se donner, je pense, des repères, des indications sur les mesures, sur les choses à voir, alors des choses que nous, comme un des mortels, ne voyons pas. C'est assez fascinant à regarder et on comprend comment le chef d'orchestre peut-être essaye de structurer, de comprendre la partition en structurant lui-même déjà ce que le compositeur a mis sur le papier afin de se donner des repères et pouvoir entendre quelque chose, parce que j'imagine que tu dois entendre quelque chose toi quand tu lis ça. Donc c'est assez drôle.
Non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un labyrinthe dans lequel en fait je trouve un chemin. Et ce chemin, je le balise effectivement par des signes de façon très claire. Et des fois même, ce qui peut être intéressant comme expérience, c'est que j'annote une partition, que je note effectivement le parcours que j'imagine dedans, et de donner la partition à quelqu'un d'autre, et que peut-être à ce moment-là, si je montrais cette partition à Simon, tout à coup la partition pourrait s'éclairer d'une certaine manière, alors qu'au début elle apparaît dans sa complexité quasiment inextricable.
Et lorsqu'on bute sur un point de détail peut-être de la partition, est-ce qu'on appelle le compositeur pour essayer de le régler?
Ah oui.
Ou est-ce qu'on peut proposer une solution qui est différente de, de celle qu'a pensé le compositeur?
Alors ça serait intéressant, Olivier, comme question. Alors bien entendu, il y a toujours la phase où on discute avec le compositeur, mais des fois le compositeur va répondre « je ne sais pas ». Et il y a quelque chose d'intéressant dans le travail d'interprétation, mais ça c'est pas valable d'ailleurs que pour la création, c'est valable pour la musique en général, c'est que finalement le chef-d'œuvre, une œuvre qui a une grande profondeur, on peut découvrir des choses que même le compositeur ne se rend pas compte qu'il a mises dedans, des relations qu'il a créées entre des thèmes, ou tout à coup un sens très profond qu'on va dégager, et le compositeur lui-même est des fois dépassé par son propre génie ou par sa propre création, et c'est l'interprète qui va révéler finalement au compositeur le sens profond de sa musique. Donc ça c'est aussi un défi intéressant pour l'interprète. Mais ça c'est valable pour l'interprète en général, pas que le chef d'orchestre, c'est le musicien qui s'empare d'une musique en général.
Cela veut dire que le compositeur n'est plus propriétaire de sa partition.
Et non, c'est justement ça qui est beau dans notre tradition occidentale de musique écrite, c'est qu'effectivement, une fois qu'il a écrit la partition va vivre. Elle va vivre parce que les humains qui vont s'en emparer, les interprètes, vont aussi y mettre aussi peut-être un peu de leur part d'histoire personnelle, le son qu'ils ont, l'idée du timbre. Et donc, bien sûr, les compositeurs ne sont plus propriétaires de leur partition, mais c'est ça qui fait quasiment le fondement même de notre culture occidentale, en tout cas de musique savante.
Quand tu as parlé de chef-d'œuvre, comment peut un chef qui travaille une partition, une nouvelle partition, peut-il estimer qu'il a affaire à un chef-d'œuvre?
On le sait assez rapidement. Je veux dire que dès la première lecture d'une partition, on sait si on a affaire à une œuvre qui
va marquer.
Qui va marquer ou non.
Alors sur quels critères?
Ah, ça c'est mystérieux, Olivier, c'est très mystérieux. C'est tout à coup une espèce d'évidence. Il y a un critère comme ça où tout à coup une musique de la première à la dernière seconde raconte quelque chose, il y a une émotion qui se dégage, une puissance évocatrice. C'est difficile de mettre des mots en fait là-dessus, mais je crois qu'il y a un critère d'évidence, effectivement.
Et la critique dans tout ça, le chef d'orchestre Léo, l'interprète Léo Varinsky, comment juge-t-il la critique? Est-ce que la critique a toujours les bonnes clés pour comprendre?
Je crois que la critique est importante en fait pour l'interprète, on en a besoin. La critique qui se limite au j'aime pas, généralement ne m'intéresse pas beaucoup. C'est celle qu'on voit de temps en temps. J'aime la critique qui construit, c'est-à-dire un peu comme disait Roland Barthes dans sa vision de la critique, c'est-à-dire que la critique qui peut être quasiment une réécriture de l'œuvre elle-même. Et ben en musique, c'est intéressant quand une critique en fait va finalement non pas juger une interprétation, mais montrer comment l'interprétation a apporté ou desservi de temps en temps le sens même d'une œuvre. Donc c'est un exercice compliqué, la critique, pour cela, mais je pense qu'elle peut être très intéressante à la fois pour l'interprète, mais aussi pour bien sûr pour le public qui reçoit.
Est-ce qu'il y a un bon niveau de la critique en France?
Ah oui, il y a quelques critiques. Alors la critique, c'est un sujet compliqué sur lequel vous me lancez là-dessus. Il y a des critiques très compétents. On a juste, de temps en temps, je trouve, un problème qui peut se poser actuellement, c'est avec le développement d'Internet notamment. La critique foisonne énormément, c'est-à-dire que n'importe qui maintenant, sur les réseaux sociaux, sur un blog, peut se prétendre critique. Et le problème est que de temps en temps, certaines personnes, notamment sur Internet, s'érigent en critique et peuvent. Cette critique Internet a pu libérer une parole des fois assez dure et on ne sait plus très bien estimer quelles sont les critiques et d'où ils partent. C'est-à-dire que quand vous lisez une critique d'un critique qui vient du Figaro, de Libération, du Monde, du Canard Enchaîné, vous savez à peu près quels sont l'univers esthétique, politique même, duquel ils peuvent parler, l'humanité aussi. Et donc du coup, vous lisez la critique avec, sachant qu'il y a un regard orienté, mais au moins ça aide à y réfléchir. Sur Internet, les choses sont beaucoup plus vagues, donc c'est plus difficile de s'y repérer.
Je pensais que tu voulais
réagir,
Simon.
Non, oui.
Mais pour en venir, voilà. Mais il y a de très bons critiques. Je vais citer des gens. Il y a des gens comme Christian Merlin, par exemple, dans Le Figaro, qui sont des gens qui sont intéressants parce que la critique de Christian Merlin, c'est toujours quelqu'un qui est capable de mettre en perspective une œuvre, une interprétation au regard de tout l'univers et de qui entoure la création ou l'exécution d'une œuvre. Et donc c'est généralement une critique qui est beaucoup plus enrichissante, je trouve.
Et puis un monsieur extrêmement charmant qui écrit un livre intéressant et passionnant, l'orchestre, sur le monde de l'orchestre, et puis récemment une histoire de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Un oui. orchestre qu'il aime et qu'on aime bien évidemment. Je pense qu'un jour vous aimeriez pouvoir diriger les Wiener Philharmonica.
Ah bah c'est un rêve.
Bon, très bien. On va écouter un extrait d'une nuit américaine. Alors j'ai choisi, pour rester un petit peu dans l'esprit de Leonard Bernstein, j'ai choisi deux pièces de Samuel Barber, mm-hmm. Let Down the Bars et puis To Be Sung on Water. Et l'ensemble métabole bien évidemment dirigé par Léo Varinsky. À la tête de son ensemble des métaboles, Léo Varinsky dirigeait Let Down the Bars et To Be the Song on Water de Samuel Barber, un disque nomade musique, une belle idée pour ces fêtes de Noël. Encore une question sur le chef d'orchestre. Alors, j'ai eu la chance et le bonheur d'interviewer Armin Jordan, qui m'avait dit « Moi, je n'aime pas le mot chef d'orchestre ».
Oui, moi je préfère aussi le mot anglais « conductor ». Je trouve ça peut-être plus intéressant dans l'idée de conduire et l'idée de diriger, et moins l'idée de chef. Parce que conduire, il y a une idée de leadership, certes, mais aussi de partenariat. Et ça m'intéresse un peu plus.
Alors Simon, depuis le 28 novembre, tu présides au Destiné d'Accent 4. Tu as pris la succession d'Hubert Metzger. Les abonnés pourront te lire dans le bulletin du mois de janvier qui vient de paraître, mais qu'ils recevront d'ici quelques jours. C'est l'occasion aussi pour toi maintenant de t'exprimer à l'antenne. De quelle manière tu vois Accent 4? Et j'ai l'impression qu'Accent 4, c'est un petit peu comme Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais tout petit.
Absolument. Donc oui, je suis le nouveau conducteur d'Accent 4. D'ailleurs, je parlais devant les bénévoles qui sont venus à la traditionnelle fête de Noël d'Accent 4 le mardi de cette semaine, justement que je succédais à un chef d'orchestre qui est resté pendant 16 ans, qui est Hubert Metzger, à qui je veux encore une fois rendre hommage à cette antenne. Et effectivement, je suis tombé dedans comme Léo d'ailleurs, hein, parce que on écoutait Accent 4 déjà tout petit. Je suis né en même temps que cette radio, il y a 33 ans. 32 ans, je crois, Accent 4. À quelques mois près, je crois.
33 ans en avril prochain.
Voilà, à quelques mois près, effectivement, nous avons le même âge et la même date d'anniversaire. Nous écoutions ça à la maison. Nos grands-parents, hein, écoutaient déjà ça. Et comme je vous le disais à l'Opus, je pense que s'ils voyaient maintenant ce chemin parcouru et puis le fait qu'on soit à cette antenne aujourd'hui et que, comme tu le disais, Olivier, je préside maintenant à la destinée de cette radio, je pense qu'ils en seraient, très fier. Donc nous écoutions ça, c'était un partenaire, un accompagnateur dans nos différents parcours. J'écoutais pendant mes révisions, hein, j'en parle effectivement dans le bulletin. Quand j'étais petit, avec cette certaine naïveté, on en avait effectivement parlé à l'Opus, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était Accent 4, qui se chargeait de changer les disques. Et j'étais admiratif, je me dis mais comment ils font 24 heures sur 24 pour diffuser une musique en continu sans publicité, et tu me confirmais d'ailleurs que finalement ce côté un peu artisanal, hein, subsiste toujours un petit peu. Il y a une âme d'Accent 4, dans la programmation, etc. Il y a toujours quelque chose d'un peu artisanal parce que c'est une radio qui vit alors par ses salariés, mais aussi et surtout par les bénévoles qui l'animent, qui rédigent des articles pour le bulletin, qui présente des émissions, qui prépare des playlists pour la diffusion. Et c'est les bénévoles qui font l'âme de cette radio. Et tu m'interrogeais sur ce que je voulais faire de cette radio. Ma priorité, c'est surtout de conserver cette âme. L'essence d'Accent 4, c'est-à-dire de la musique en continu, proposer des programmes de qualité. Et je l'ai dit déjà à maintes reprises, mais je reste toujours admiratif par la qualité des programmes qui sont diffusés. Et j'avoue que même depuis que je suis président, je m'attelle à écouter vraiment toutes les émissions et parce que les bénévoles m'interrogent, je dis Simon, qu'est-ce que tu penses de cette émission? Ils ont besoin d'avoir un retour du nouveau président sur ce qu'ils produisent, sur ce qu'ils font. Besoin d'être rassuré parce que effectivement, on n'est pas des professionnels de la radio et qu'on a besoin d'avoir un avis extérieur. Et j'avoue que jusqu'à présent, je suis vraiment admiratif du travail qui est réalisé. Alors évidemment, il y a des chantiers qu'il va falloir ouvrir, c'est-à-dire peut-être un peu moderniser, mais pas moderniser dans le sens opérer une révolution sur la radio, mais c'est plutôt S'orienter vers des nouveaux supports. Et ma priorité, c'est notamment de proposer un site internet d'accent 4, peut-être plus convivial, plus facile d'accès, avec plus de contenu dessus. Notamment, on a de plus en plus de demandes, Olivier, tu le sais, de gens qui veulent réécouter les émissions, qui veulent les podcaster. Maintenant, les gens n'écoutent quasiment plus la radio en direct et veulent réécouter parce que sur les réseaux sociaux, on va dire, bah voilà, il y a telle émission à telle date, à telle heure, ah bah je pourrais pas l'écouter, mais je veux avoir la possibilité de l'écouter via, par exemple, sur un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter ou je ne sais quoi. Donc ça va être un des chantiers prioritaires, parce que je pense qu'il faut offrir maintenant à nos auditeurs la possibilité d'écouter des émissions où ils veulent, quand ils le veulent. On en avait parlé aussi, Olivier, de peut-être proposer du contenu vidéo, faire des captations. On fait déjà beaucoup de captations de concerts, et ça c'est une grande force d'Accent 4, d'être présent sur les événements et les festivals qui se déroulent en Alsace. Et pouvoir offrir aux auditeurs aussi de réécouter des concerts d'exception ou par des ensembles locaux peut-être plus confidentiels, mais de leur laisser cette chance d'être diffusés, de passer à la radio, et pourquoi pas ajouter de la vidéo, ou alors de pouvoir accéder à ces concerts directement en ligne. Ensuite, il y a les nouveaux défis, on va dire pas des nouvelles technologies, mais de l'avenir de la radio. Qu'est-ce que va être la radio plus tard, hein? Il y a peut-être des choses à repenser.
La
radio numérique terrestre, là c'est imminent. Hein, il y a des décisions qui vont devoir être prises pour franchir le cap de la radio numérique terrestre. Est-ce qu'il faut être dedans ou pas dedans? Il faut être prospectif, parfois même un peu devin, parce qu'on ne sait pas ce que va donner cette radio numérique terrestre, ce que va être la radio, est-ce que les ondes hertziennes ont de l'avenir encore. C'est vraiment des interrogations de fond, et c'est difficile d'y répondre parce qu'on est vraiment dans des choses qui relèvent de la divination, quoi, de quelque chose de qui n'est pas encore posé, qui n'est pas encore définitif. Donc voilà, essayer de garder l'âme d'Accent 4 tout en modernisant, en tout cas proposant des nouveaux contenus et des nouveaux supports aux auditeurs.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup le mot artisan. Je crois qu'effectivement, nos bénévoles, nos animateurs sont des artisans.
Oui.
C'était un très, très beau mot. Des plus beaux mots, peut-être, de la langue française. Puis là, je viens d'avoir un petit SMS de Michel, notre ami Michel, oui. qui pose cette question. À quand les matinales de Pâques?
Alors, ça, c'est un...
On en parlait hier.
On en parlait hier. C'est un vieux rêve que tu as aussi, Olivier.
Avec Maxime.
Avec Maxime, de pouvoir proposer, comme pendant la période de Noël, des matinales. C'est vrai que c'est un exercice qui est tout à fait particulier, qui est avec ce plaisir du direct aussi, hein, qu'on n'a pas forcément souvent sur Accent 4, si ce n'est pour les opus, mais qui sont enregistrés dans les conditions du direct, mais pas forcément diffusés en direct. Et c'est vrai, et les matinales, c'est aussi le moment où les gens écoutent le plus la radio, entre 7h et 9h, soit au petit déjeuner, soit dans la voiture, et de pouvoir proposer un contenu un peu vivant, avec peut-être avec de l'information, avec des annonces de concerts, avec des invités, et puis évidemment toujours de la musique, parce que c'est ce qu'attendent nos auditeurs d'Accent 4, c'est d'avoir un maximum de diffusion de musique. Mais voilà, ça rendrait la radio encore plus vivante, mais ça demande des moyens matériels, humains, parce qu'il faut se lever tôt, il faut avoir quelqu'un qui a la technique. Hein. Je remercie Maxime, hein, qui fait un travail absolument remarquable pour la technique et qui est avec toi tôt le matin. Évidemment, toi aussi, Olivier, hein, d'animer ces matinales. Parce que,
j'ai eu peur.
Oui, parce que ça demande un travail de préparation et assez conséquent. Et je sais que tu ne laisses aucune place au hasard. Tes émissions sont toujours préparées avec minutie. Et c'est assez remarquable. Je tiens à te le dire là à l'antenne. C'est le président qui parle là. Et c'est un plaisir. Et je crois que nos auditeurs aussi s'en rendent compte. Et les invités s'en rendent compte. J'ai plusieurs personnes qui ont été reçues à cette antenne. Et quand on dit le plaisir de venir à Accent 4, c'est que on a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait, qui sait ce qu'on fait, qui a réfléchi au parcours, qui a écouté les CD, et donc on revient quand on veut. Enfin, invitez-nous sur Accent 4, on reviendra parce que on a ce plaisir d'être écouté, d'avoir quelqu'un qui connaît son sujet et qui nous permet de s'exprimer sur le fond et sur ce qu'on fait. Voilà.
Bien, ouais. Ce petit questionnaire de Proust, et puis Michel vient de m'envoyer un autre SMS en me disant « Mais quelle pêche, ce nouveau président !» Bien, à 8h32, questionnaire de Proust, alors vous allez répondre tous les deux. Mm-hmm. Première question, quelle est votre œuvre symphonique ou de musique de chambre préférée, Léo ?
Alors, c'est celle que je dirige actuellement, généralement. Mais si j'avais à répondre de façon un peu générale, je pourrais dire en ce moment peut-être la deuxième symphonie de Mahler, La Résurrection.
Je partage cette réponse.
Eh ben parfait, j'en suis heureux.
Alors moi, ça sera de la musique de chambre, sonate pour violoncelle de Brahms.
Laquelle ?
La première.
D'accord. Votre chef d'orchestre préféré ?
Ah, peut-être Carlos Kleiber.
Tu oses me poser la question non, à côté de
l'exception. Tu n'as pas le droit de Léo.
De Léo. Alors moi, je dirais quelqu'un de plus récent, Simon Rattle. J'ai une grande admiration. J'ai beaucoup écouté ce qu'il a dirigé et j'avoue avoir une certaine admiration pour cet homme qui m'est en plus profondément sympathique. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est oui. En tout cas l'image qu'il véhicule et voilà.
C'est quelqu'un qui, comme il est à la scène, comme il est en public, effectivement.
Oui. Oui. Tous les Berliner Philharmoniqueurs l'apprécient. Oui. Un chef qui est très facile. Quel personnage d'opéra auriez-vous aimé être ?
Alors. J'ai répondu Don Juan.
Prétentieux.
Non, parce que je pense parce que c'est aussi l'opéra qui m'a fait le plus rêver, qui me fascine toujours autant, et la complexité de ce personnage, autant du livre de Molière que de l'opéra, un personnage d'une complexité énorme et qui m'intéresse beaucoup, mais c'est pas par prétention, je sais pas si j'aurais voulu être à sa place.
Mais Don Giovanni, c'est une idée, j'avais pensé aussi à quand vous m'avez parlé de ce questionnaire, tu m'as parlé de ce questionnaire, Olivier, parce que Don Giovanni, ce que j'admire chez lui, c'est que c'est un personnage qui va au bout de ses idées, c'est quelqu'un de courageux, quoi. Quand la statue lui tend la main, le commandeur, il lui prend la main, alors qu'il sait que ça va mal finir pour lui. Alors moi, j'aurais plutôt choisi peut-être un personnage plus léger, on va dire Don Alfonso dans Cosi, par exemple, qui est cette espèce de philosophe fanfaron, qui détient un peu la vérité sur les hommes et les femmes, mais de façon assez légère, et qui peut parler, il y a certains airs où Don Alfonso parle pour ne rien dire, et je le trouve du coup assez attachant.
Oui. Et il s'amuse aussi.
Il s'amuse beaucoup.
Petit message d'Hubert, notre président, on est très écouté aujourd'hui, Simon. Belle matinale, bonne fête à tous les auditeurs, bonne fête de Noël à tous les auditeurs, mais je pense que tu auras l'occasion de le dire aussi à la fin de cette émission. Quel compositeur auriez-vous aimé être, Simon ?
Bach, oui. Je ne sais pas si on peut argumenter sur le choix. Non, mais oui, 5 minutes dans la peau de Bach pour voir comment c'est possible. comment on peut créer comme ça.
C'est joli, ça.
Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Alors, il y a peut-être deux. Je pourrais penser à Wagner, dans le sens pas mégalomane du texte, mais quelqu'un qui soit capable d'imaginer une pensée, qui est une pensée si large en fait, capable de composer une œuvre qui raconte tant et si profonde sur l'être humain en général. Et parce que c'est aussi le poète et le compositeur.
Quelle œuvre littéraire auriez-vous aimé écrire, Léo ?
Peut-être justement dans l'idée wagnérienne, une œuvre comme le Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est-à-dire une mythologie immense, créer un nouveau monde à partir de rien du tout.
Simon ?
Moi, La Vie devant soi, Romain Gary. Voilà, plein d'optimisme, je trouve, même avec une certaine nostalgie, et à la fois de nostalgie et puis un optimisme à toute épreuve.
À voir absolument actuellement la promesse de l'aube avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg. Le cinéma est quelque chose qui vous intéresse tous les deux ?
Ah oui, alors forcément, et puis en plus Hugo n'est pas là parmi nous, notre plus jeune frère, mais on a parmi nous un réalisateur et du coup un grand connaisseur du cinéma. Donc forcément, je pense que, notamment grâce à Hugo, on est, on se sent très concerné par ce 7e art.
En tout cas, moi, je suis toujours très intéressé par les avis d'Hugo sur les films, effectivement, parce qu'il a un regard expert. Et c'est, en plus, il a toujours un regard très aiguisé et très intéressant sur les films qui peuvent sortir au cinéma. Donc, je vais aussi en cinéma en fonction de ce que lui peut nous dire.
Un petit message aussi sympathique de FX. On est très écoutés aujourd'hui. Quel est le mot que vous adorez?
J'aime bien le mot procrastination.
Coquelicot, je trouve ce mot absolument remarquable.
Le mot que vous détestez?
Alors, il y en a un que je déteste, c'est amateurisme. Mais dans le sens, non pas amateur, mais amateuriste, c'est-à-dire le fait de faire les choses avec négligence.
Légèreté.
Et frivolité. Et notamment dans la musique. J'aime en fait l'exigence.
Moi, j'ai mis concupiscent, parce que je trouve que ça sonne extrêmement mal. Et en plus, le mot n'évoque pas beaucoup de choses forcément très joyeuses.
Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez un homme ou une femme, Simon?
Alors, il se trouve que c'est le même mot qu'a utilisé Robert Herman à ton antenne hier matin, la bienveillance.
Et je dirais, pour moi, la franchise.
Et le défaut que vous ne pardonnez pas?
La bêtise.
Alors là, je partage totalement.
Moi, je dirais plutôt la connerie, la bêtise. Je trouve qu'on peut la pardonner, non. La connerie, non.
Oui, mais je n'oserais pas employer un gros mot à l'antenne d'Action 4.
Je crois qu'on ne fera pas mieux que notre amie Marie Linden il y a 48 heures. Alors, et votre juron préféré?
Moi, je ne jure jamais.
Bordel de...
Est-ce que tu jures avoir dit toute la vérité, rien que la vérité, Léo?
Je le jure, Olivier.
Bien, alors on va écouter le disque choisi par Simon.
Oui, alors j'ai pas la pochette devant les yeux, mais on va écouter Camille Thomas dans un CD qui est dédié à Saint-Saëns et Offenbach, un très très beau disque, et nous allons écouter un arrangement de Je suis brésilien de La vie parisienne. Alors c'est l'Orchestre National de Lille dirigé par Alexandre Bloch, un CD Deutsche Grammophon.
Sans maîtresse, 6 mois de galantes ivresses, et puis les rien au Paris, oh 6 mois tu m'as tout raflé, et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicate et m'a ravaillé, mais j'ai brûlé de rêverie, et là-bas sous vos cils sauvages, je me remettais avec grâce, une autre fortune au mourir, je ne suis pas mort, j'ai gagné ta vie en que mal de sol et folle, je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Je suis brésilien, j'ai de l'or, et la rive de Rio de Janeiro, Paris, 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 je te reviens de l'or. Hurra, 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 je viens de débarquer, et des beaux fauches de coco. Hurra, 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 qu'apporte à vos quenottes, pour une fortune à croquer. Le pigeon vient plumé, prenez des dollars, mes ventes, notre maman, je prendrai pour mon argent, et oui, cadeau.